Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les 24 heures du monde de la critique et les pilotes Eva Bétan de France Inter. On est ravis de retrouver à cette tribune Charlotte Lipinska de Vogue, Michel Simon, Michael Simon de Positif et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. Et vous le savez, d'une heure en série tous les samedis, c'est le masque série du samedi soir à 20h et qui, comme le masque et la plume, marche du feu de Dieu.
Pour l'instant, dans nos...
Ben oui, touche. On parle ce soir de J'accuse, de Polanski, du Mans 66, des Misérables, des Éblouis, de Little Joe, des Enfants d'Isadora et de Terminal Sud. J'espère qu'on pourra parler de tous ces films. Dans le courrier de la semaine, Chambre 212 de Christophe Honoré, eh bien, Lise de Bourg-les-Valence a adoré. Quelle beauté, quelle grâce. La musique est géniale. J'ai ri, pleuré. C'est intelligent, vertigineux, complètement loufoque. Et c'est tellement la vraie vie. Merci pour ce délicieux conseil. Monsieur Saï n'est pas exactement du même avis. Je te remercie, cher Masque, de m'avoir conseillé la Chambre 212. J'y ai très bien dormi. Franchement, les acteurs font bien leur boulot, mais ce film manque de rythme. Le réalisateur se regarde filmer. Alain Chabot de Toulouse est même en colère. Voilà un film censé décrire la vie intime d'un couple lambda. Et qui découvre-t-on ? Aucune sensualité, pas de complicité, un dialogue et des postures d'un moralisme affligeant. Mais comment avez-vous pu, au masque, défendre un travail aussi bâclé ? Dominique Collard, lui, s'étonne. N'y avait-il que Pierre Murat pour avoir du nez et pour être le seul à avoir senti que cette chambre 212 puait le renfermer ? Je n'entre pas dans ce réalisme magique, pour reprendre les mots de Jérôme Garcin. Tout m'apparaît fait de carton pâte, tout en peste l'artifice. Votre exceptionnelle unanimité, nous dit Christian Revenu de Fontaine-lès-Dijon, pour vanter les mérites de la Chambre 212, m'avait fait redouter le pire, charmant. Et finalement, non, quoique mon enthousiasme soit plus modéré concernant le scénario, un peu trop sage et sans grande surprise. Sinon, hors norme de Nakash Toledano, eh bien, divise un peu les auditeurs. Sandrine Queret d'Evreux juge que ce film reflète la réalité. Il parle des institutions débordées et c'est une infirmière depuis 26 ans qui nous l'écrit. Je quitte ce métier que j'aime justement parce que je ne peux plus l'exercer avec le cœur. Pour Arnaud Sanquer, Toledano, Nakash ne vont pas chercher le rire gras, ce qui les différencie de 99% des faiseurs de comédie grand public à la française. Ils continuent à faire du cinéma populaire sans oublier de faire du cinéma. Thomas Hanbig de Paris dit avoir trouvé dans Hors Normes ce que je recherche dans l'art, me faire jaillir des larmes, susciter mon rire et ouvrir mes horizons. Comme l'a si bien dit Xavier, je me suis pris à rêver à cette image d'une société fraternelle, multiconfessionnelle et attentive à ceux qui sont d'habitude cantonnés à ses marges. Céline aussi a trouvé ce film exceptionnel. Bravo aux acteurs, aux jeunes comédiens, handicapés ou non. Pour Dominique Ponard, contrairement à ce qu'a dit Jean-Marc Lalanne, il n'y a aucun pathos dans ce film. Il faut vraiment le vouloir pour descendre en flèche ce magnifique film. D'autres partagent justement l'avis de Jean-Marc, comme Nicole Lagueste. Montage systématiquement qui privilégie les deux acteurs principaux au détriment des jeunes et c'est gênant. Ou pour Mona Hamzar, trop c'est trop, Toledano Nakash poursuivent leur inlassable entreprise de mièvrerie qui est leur marque de fabrique. Ce plaidoyer lourdingue ne fait pas un bon film de cinéma. Ou encore Pierre Cusor, qui aurait aimé que le sujet soit plus creusé, travaillé, ramassé. Au niveau purement cinéma, rien d'indigne, mais pas grand-chose non plus. Enfin, Philippe Cailleux de Paris nous écrit pour mentionner un film tombé en France dans un trou noir cinématographique en raison d'une législation française totalement périmée. Je veux parler, nous dit Philippe Cailleux, de L'Irlandais de Martin Scorsese. J'ai dû me rendre à Bruxelles pour pouvoir le voir sur grand écran. Vu le prix des billets de train, je dois reconnaître qu'il vaut mieux être passionné par le cinéma et ne pas être smicard. Il est bien dommage que les Français soient privés de ce film marquant dans la filmographie de Scorsese qui en reprend les thèmes. met en livre une version très inattendue, un de ses derniers peut-être, et je me suis plongé dans la mélancolie, nous dit encore Philippe Cailleux, à l'idée que faute d'un changement de nos lois en France, je n'aurai plus jamais l'occasion de voir ce film ou de le revoir. Ça pose une vraie question. Qui l'a vu ici? Je sais qu'Eva et Michel l'ont vu.
Non, mais d'abord, monsieur parle, l'auditeur parle d'une législation périmée. Il doit savoir que si la France est peut-être le dernier pays au monde à avoir un réseau de salles, de 1200 salles, qui montrent des films exceptionnels de tous les pays du monde, c'est grâce à cette législation. Cette législation qui fait qu'un film ne passe ensuite à la télévision que 18 mois
J'entends
ou 12
bien,
mois après.
Michel, mais
c'est ce qui a sauvé la France et que le monde entier nous admire. À part ça, ça n'empêche pas, effectivement, les gens de voir. Moi, j'ai vu le film de Scorsese, j'ai eu la chance de le voir en salle, parce que c'était une projection privée. Je sais, j'ai eu cette chance, mais néanmoins, je préfère que le film de Scorsese ne soit pas montré dans les salles et que la France reste le seul pays, encore une fois, où on peut voir des films du monde entier et que tous les exploitants sont exceptionnellement qualifiés en France pour montrer les meilleurs films. Et tant pis pour Scorsese.
Tu penses que voir le Scorsese sur grand écran en France empêcherait qu'on voit les autres?
Mais c'est la législation.
Mais, pardon, mais Scorsese n'était pas obligé de s'en faire son film pour Netflix. Il fait ce choix.
Là, par contre, je défends Scorsese. Il a essayé depuis 15 ans de monter ce film. Aucun producteur hollywoodien n'a voulu le produire. Et c'est Netflix qui lui a donné l'argent. Comme pour Cuaron, comme pour Soderbergh.
Mais donc, Scorsese...
Cuaron, il a été acheté par Netflix. Il n'a pas été produit
Exactement, alors que le Irishman a été produit par Netflix. Donc, Scorsese, il va en connaissance de cause. C'est comme quand Marguerite Duras vend les droits de l'amant. Dans le contrat, elle n'avait pas de contrôle sur qui ferait le film, elle le fait en connaissance de cause. Donc
en
voilà, il n'est pas victime, Scorsese, il sait très bien ce qui va devenir de son film.
Et cela dit, c'est un très beau film. Moi qui ai été très déçu par les derniers films de Scorsese, et qui était un de mes cinéastes préférés, c'est un film de 3h30. Les gens disent évidemment, mécaniquement, c'est un peu long. C'est pas vrai, il donne l'impression de durer 2h30. C'est un magnifique film sur la mafia, et où il y a une tendresse, une affectivité que je ne connaissais pas dans le cinéma de Scorsese. C'est un film, tout le dernier trois quarts d'heure, c'est un film élégiaque sur la vieillesse, sur l'oubli, sur la mort. C'est plutôt du John Ford que le Scorsese de Mean Street.
Eva ?
Le début est magnifique. Il y a un plan séquence qui nous amène à un homme en chaise roulante, et c'est De Niro. On va s'évanouir comment notre De Niro en chaise roulante. La fin est effectivement magnifique. C'est un film sur la vieillesse. Ceci étant, les 3h30, c'est pas une fresque. Il n'y a pas l'envergure qui justifierait ces 3h30. Et le procédé qu'il utilise pour rajeunir ses comédiens, puisque c'est censé se passer sur la durée, c'est un sous-fifre de la mafia qui grimpe les échelons et qui devient très proche de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, le syndicaliste lié à la mafia, qui un jour a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, il ne veut pas prendre le procédé classique et qu'on prend un acteur jeune pour jouer De Niro jeune. Je comprends, il ne veut pas se priver de son De Niro tout le temps. Mais le procédé, ça fait un peu Musée Grévin. En même temps, il y a leur présence quand même. Alors que le visage est vraiment bizarre, il y a leur présence quand même.
Voilà, c'était la petite séquence Scorsese. Et on commence avec J'accuse, le film de Roman Polanski. Très chahuté, je parle du film, par l'accusation, je le rappelle, de viol prononcée par la photographe française Valentine Meunier, les faits remontant à l'année 1975. Un film sur l'affaire Dreyfus, adapté du roman de Robert Harris, avec Louis Garrel dans le rôle de Dreyfus, Jean Dujardin en colonel Picard, et Grégory Gadebois en commandant Hubert Henry, Emmanuel Seigné, Hervé Pierre, Didier Sandre, Melville Poupeau, Éric Ruff, Mathieu Amalric, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, il y a presque toute la comédie française, Gérard Chaillou, qui joue Clémenceau, et André Marcon. Le film s'ouvre par la scène, il faut dire, grandiose, terrible, à la fois de la fameuse dégradation de Dreyfus dans la cour de l'école militaire, et se termine par sa réhabilitation. Là, au moins, je ne vous révèle rien. Ne m'écrivez pas pour vous dire, je vous ai raconté la fin. Entre-temps, on assiste à tous les rebondissements de l'affaire qui enflamme le pays pendant que le capitaine Dreyfus, accusé de haute trahison, purge sa peine sur l'île du diable. L'acteur principal du film, ce n'est pas Dreyfus, vous l'avez compris, mais c'est le colonel Picard, donc joué par Dujardin, pourtant anti-Dreyfusard et antisémite, et qui, nommé à la tête du contre-espionnage, découvre que les preuves contre Dreyfus ont été fabriquées et qu'il s'agit donc d'une erreur judiciaire, jusqu'à la publication dans l'Aurore du fameux J'accuse, où Zola dénonce et nomme d'ailleurs l'un après l'autre tous les faussaires de l'état-major français. Ce film, il faut dire, tourné à l'ancienne,
presque une, pour moi, parfois une résurgence de la SFP, a reçu le Lion d'Or à Venise et dure 2h12. Xavier.
Non, pas Lion d'Or, Lion d'Argent.
Lion d'Argent,
c'était l'horrible Joker.
Il a reçu un. Je ah non, je t'en supplie.
Oui,
non.
Je sais, mais c'est pour ça que je le fais exprès.
Tu ne touches plus à Joker. Oh non.
Je n'avais pas du tout l'intention de toucher, de toute façon.
Mais tu as en partie raison, Jérôme, de le donner le Lion d'Or, parce que la presse italienne, internationale, française, lui avait donné le Lion d'Or. C'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire le film préféré de la presse internationale.
Bon, il a le Lion d'Argent, voilà. Mérité ou pas, nous allons en discuter dans quelques instants, cher Michel. Robert Harris, il l'avait déjà croisé sur Ghostwriter.
Absolument.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose.
Un film sur la négritude,
sur
au
la
sens
négritude,
littéraire du terme. Hein.
Qui avait inspiré une des plus belles mises en scène pour moi de Polanski de ces 10 dernières années, c'est-à-dire une espèce de huis clos paranoïaque,
clos, oui.
Mais à ciel
incroyable.
Ouvert en même temps, avec un rapport labyrinthique des personnages, d'une construction de décor, que je trouve, alors c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté SFP, je trouve qu'il arrive, tout en respectant énormément le travail historique. Alors, tu as parlé du roman de Robert Harris, qui est en fait la somme de travail qu'il avait déjà commencé à collecter avec Roman Polanski, qui voulait tourner le film en français, alors qu'on lui facilitait le travail s'il le tournait en anglais. Donc, il y a une exigence de Roman Polanski pour le tourner en langue française. Ils vont beaucoup travailler avec Harris, Harris va en faire un livre, effectivement, un excellent bouquin d'ailleurs.
Allez, qu'est-ce que tu en penses?
Je trouve que c'est formidable. Alors, il y a une parenthèse totalement désenchantée qui est la reconstitution de la prison de Dreyfus en sépia. Ça, alors là, on est d'accord, c'est totalement SFP, c'est abominablissime. Mais pour le reste, je trouve que tout ce qui est de l'ordre de la paranoïa, du labyrinthe, du confinement du personnage, à la fois de Picard, mais en même temps aussi de tous ces personnages qui sont engoncés dans la responsabilité, ce qu'implique l'armée, les exigences comme de la Grande Muette, je trouve ça remarquablement construit et filmé. C'est-à-dire ce lieu pratiquement, on est dans CSI et les experts, c'est-à-dire qu'ils découvrent en arrivant dans les services secrets, ouais. Comment est-ce qu'on reconstitue une pièce à charge, comment est-ce qu'on on trouve des empreintes, il y a un côté thriller à l'intérieur de ça.
Thriller de bureau, on est toujours...
Et oui, mais c'est un thriller de bureau, oui, mais qui est remarquablement filmé avec ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des lignes de fuite, des couloirs, des angles durs, la manière dont ce personnage... On le voit tout le temps pratiquement depuis la porte d'entrée jusqu'à son bureau, monter à celui-ci, il y a peu d'ellipses, on voit la pesanteur de l'administration, la folie de l'armée, et je trouve que tout ça trouve son acmé dans les scènes finales de procès qui sont toujours autant anxiogènes, toujours autant étouffantes que le reste du film. Il y a une vraie ambiance quand même.
Mais si tu permets, moi je trouve qu'à un moment historique où le pays a été s'est embrasé, a été pour ou contre avec une violence incroyable, qu'on n'est pas du tout, presque pas, de scènes de rue, de scènes de ville, de scènes d'extérieur où on voit le pays.
Il fallait un jour raconter un choix, la responsabilité,
voilà, c'est un peu trop
de l'armée,
un
de
film
la société
de bureau
française.
Et de prétoire. Voilà, allez,
c'est,
Charlotte.
C'est un film qui est à l'os, quoi, qui est vraiment sans fioritures, d'ornements, de musique et qui est entièrement de l'intérieur. C'est-à-dire, effectivement, tout se passe dans les chambres, les couloirs et les bureaux de l'armée. Et on est, nous, en tant que spectateurs, totalement coupés du peuple et de la société qui, effectivement, tu le disais, Jérôme, s'embrase, mais d'une certaine manière, comme l'armée devait l'être à l'époque. On emboîte le pas de ce colonel Picard qui passe d'un bureau à l'autre et tout se joue autour d'un bordereau sans qu'on sente qu'il entende le peuple gronder, quoi. Il est vraiment dans son obstination à rétablir la vérité, et c'est même pas par sympathie pour ce pauvre Dreyfus, puisque très clairement il est antisémite, mais il est animé par le sens du devoir. Voilà, et il veut pas de mensonges, et c'est son devoir de bon petit soldat que de rétablir la vérité. Moi, je trouve le film assez fort, et effectivement avec ce parti pris qui peut paraître austère, mais d'entièrement nous prendre par la main uniquement dans les couloirs et d'avancer de manière complètement dépassionnée. Ce Picard, il est obstiné, il est têtu, il n'entend pas le monde autour de lui, juste il avance. La distribution, on peut dire un mot quand même de Jean Dujardin qu'on n'attendait pas forcément dans ce rôle, il est absolument admirable. Louis Garrel également, et puis alors la moitié de la Comédie française y est. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y a un seul point de vue, celui de Picard, et il y a des historiens.
Il y a beaucoup d'historiens depuis,
voilà,
quelques jours qui
effectivement remettent un peu les choses en perspective en disant qu'il ne faut pas oublier que Dreyfus lui-même et son fils aîné ont beaucoup œuvré pour le faire innocenter et qu'il ne faut pas non plus donner tous les lauriers à Picard.
Michel.
Oui, d'abord, c'est le film qu'on attendait depuis 100 ans. Parce qu'il a fallu qu'un des plus grands cinéastes au monde, qui est Roman Polanski, prenne ce sujet en main pour le traiter. Il n'y a pas eu un seul film, il y a eu un téléfilm, il n'y a pas eu un seul film sur un des événements les plus traumatisants de notre histoire. Et je trouve déjà...
Alors qu'il y a eu de très grands livres.
Oui, il y a eu beaucoup de livres. Mais ce que je veux dire, d'abord, rendons hommage que la France attendait ce film. Et d'ailleurs, 400 000 personnes sont allées le voir en une semaine. Parce que les gens veulent se faire une idée du film.
Ce qui n'était pas toujours facile.
Oui, et les gens veulent se faire une idée de ce film qui est un des très grands films, évidemment, pas seulement de l'année, mais un très grand film.
Michel, les derniers chiffres, je les ai demandés, 501 000 en une semaine.
501 000, j'en suis ravi. Dès la première séquence, qui est l'humiliation publique de Dreyfus, qui est condamné à retirer ses grades devant sa hiérarchie. C'est d'une violence sèche, c'est une scène incroyable, on voit toute l'économie de moyens de Polanski. Le ton est donné, c'est-à-dire le film est d'une rigueur à la Fritz Lang, une sorte d'enquête, une contre-enquête que va faire Picard et qui va l'amener à permettre à Dreyfus de sortir de l'île du diable. Et ce qui est passionnant aussi, c'est l'interprétation du jardin, parce que c'est extrêmement difficile pour un comédien d'être impassible. Il est impassible parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est un petit soldat. Il fait son travail par devoir. Et face à cet homme, il y a toute cette armée décomposée, la syphilis, l'obésité, tous ces personnages qui ne sont pas caricaturaux, qui sont des croqués par...
La même chose, la syphilis et l'obésité.
Mais ce que je veux dire, c'est que
les deux sont pas incompatibles.
Soit ils sont très malades, soit ils sont difformes, qui représentent une France qui est totalement corrompue et qui sont joués par d'excellents acteurs aussi, mais qui sont un peu croqués comme Dickens. On sait que Polanski a adapté Oliver Twist. Il y a un sens du personnage qui ne devient jamais caricature. En plus, c'est un sujet polanskien, c'est-à-dire un homme seul qui est pris dans un système qui va le broyer. C'est le sujet de tous les films de la plupart des films de Polanski. Donc je trouve ce film admirable.
Eva.
Jérôme, tu disais tout à l'heure, on ne voit pas le monde extérieur. Bien sûr, il le fait exprès, parce que c'est un crime de bureau. Il te montre comment ce que c'est. On a vu ça plus tard.
N'empêche que la France s'est déchirée.
Mais ce n'est pas son sujet. Il prend l'angle, je dirais, le moins sexy. Il pourrait faire un film flamboyant. Il prend le côté de Zola. Et on est emporté. Il pourrait prendre un film à grand spectacle, on voit la France divisée. Il prend un personnage assez peu sympathique, parce que même s'il joue un rôle important, il demeure antisémite, il est raide comme un passe-lacé, et pourtant, ce type-là, quand même, face à la vérité, va dire « la vérité, c'est inexorable et je ne céderai pas ». Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un film, Michel parlait de la syphilis, tout, mais on sent la pourriture, on sent qu'il n'y a pas d'air. Mmh. Et c'est là que tu vois une société fermée, et il n'y a pas besoin de l'illustrer, tu le sens, c'est comme si tu sentais la poussière, c'est comme si tu sentais la maladie.
C'est
un film, quand tu le vois, tu te dis, mais il y a la maladie qui court. L'antisémitisme, tu le vois quasiment marcher, courir. Et même, c'est probablement anachronique quand il monte une sorte d'auto-da-fé d'exemplaires de l'aurore, mais peu importe, il indique, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas historiquement, mais il indique par là le monde à venir. Voilà, et c'est ça que je trouve extrêmement fort, justement parce qu'il ne couvre pas tout. Il choisit un angle et qui n'est pas le plus sympathique.
J'accuse de Polanski, est-ce qu'il y a des réactions dans le public sur ce film ? Oui, le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Oui, mesdames, messieurs. J'ai retrouvé une phrase de Martin Dugard. La culpabilité de Dreyfus ou bien l'infamie de l'état-major, voilà dans quel dilemme imbécile on a enfermé ces officiers. CCES. C'est exactement le drame et le dilemme du colonel Picard qui accède à la direction du service secret. Et effectivement, il n'est pas anti-Dreyfusard.
Il est clairement antisémite.
Il est antisémite, tout à fait.
Ah oui.
Mais il n'est pas anti-Dreyfusard. Il n'aime pas Dreyfus personnellement. Il l'a mal noté à l'école de guerre. Il est son maître de stage au ministère. Dreyfus étant son stagiaire de l'école de guerre. Et il s'excuse auprès du commandant Mercier-Milon de lui donner le juif Dreyfus. Il est tout à fait antisémite. Mais c'est un antisémite de tradition. Et quand il s'aperçoit de la supercherie, il va avoir ce réflexe. Il va placer le devoir au-dessus de tout. Et il me fait penser, il annonce les grands officiers de tradition... De Gaulle et Paris de Bollardière, par exemple.
Merci, monsieur, pour votre intervention. Encore une intervention au théâtre de l'Alliance française. Bonsoir.
Bonsoir. On ressent pendant toute la durée du film une angoisse qui monte, qui monte, qui monte. Et c'est vrai, madame, vous avez tout à fait raison. Quand vous dites que Polanski n'a pas choisi l'angle le plus facile pour faire ce film, on est complètement pris. On vit les émotions du capitaine Picard, on vit les émotions de Dreyfus et on en sort de là bouleversé et même étouffé. On avait envie après de boire, de se saouler la gueule, de manger. Mais on ne peut plus respirer. On ressent complètement les choses. C'est comme si moi-même, on m'avait dégradé. J'ai adoré ce film.
Merci pour votre témoignage. Et c'est vrai qu'en plus, à la fin du film, là, pour le coup, Garrel joue bien un Dreyfus plutôt antipathique, qu'on n'a pas forcément, une fois qu'il est bien sûr réhabilité, envie de forcément de défendre. Monsieur, encore oui, plusieurs interventions, décidément, ce film fait parler. Bonsoir,
bonsoir,
monsieur.
Bonsoir. C'est juste une remarque. Dans le film, il y a un clin d'œil de Polanski qui apparaît dans une scène.
Oui.
Qui est la scène du concert, et il apparaît en académicien.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée de
Je ne siège pas à l'académie, mais je pense qu'on peut y voir soit un clin d'œil, soit une candidature.
Ça va être dur.
Merci. Oui, ça va être dur, comme vous dites.
Entravé.
D'autres réactions? Non, c'est tout sur ce film de Roman Polanski qui a pris déjà une grande partie de cette émission. On va quand même essayer de parler des Misérables, le premier film de Ladj Lee qui a fait sensation à Cannes, où il a obtenu le prix du jury, pour être tout à fait honnête, ex aequo. Avec Bakurao, c'est avec Damien Bonnard, Alexis Mananti, Djibril Zonga, Ladj Lee, 39 ans, je le rappelle, originaire de la cité des Bosquets à Montfermeil, qui raconte la vie quotidienne de la brigade anticriminalité de Clichy-Montfermeil. Elle est formée de trois flics, trois baqueux, dont l'un, Stéphane, Damien Bonnard, débarque de Cherbourg, les deux autres plus aguerris et plus cynique parfois, étant Chris, c'est Alexis Mananti qui co-signe d'ailleurs le scénario. Et Guada, c'est Djibril Zonga, leur chef, une commissaire qui est jouée par Jeanne Balibar. On en reparlera la semaine prochaine dans l'émission théâtre où elle est moins habillée. Le film s'ouvre par des scènes de liesse sur les Champs-Élysées après la finale de la Coupe du Monde. Et il plonge ensuite dans cette cité des Bosquets où se mêlent les communautés des frères musulmans, des gitans, des africains, et où nos trois baqueux vont notamment traquer un gamin qui a volé le lionceau d'un cirque de passage. Et il suffira d'une bavure, un tir au LBD, qu'un drone, c'est très important à filmer, pour que la cité inflammable s'embrase. On est donc 24 ans après la haine de Kassovitz, avec ces Misérables, qui doit être, selon Ladj Lee, un cri d'alarme. Eva?
Je trouve que c'est vraiment un très beau film. J'ai regardé cet après-midi, je ne l'avais pas vu, le court-métrage qu'il avait fait, Les Misérables, de 16 minutes.
Et qui annonce
ce film.
Misérables.
Et on voit la différence, si vous voulez, il y a tous les ingrédients. Et là, il y a l'ampleur. Et là, il y a une sorte de grâce. Et là, il y a une maturité incroyable. Il faut se souvenir que Ladj Lee, depuis 20 ans, il utilise sa caméra comme une armée au sens positif du terme pour acter des bavures policières, pour faire des documentaires sur l'endroit où il existe. Et quand il passe à la fiction, eh bien, il y a toute une réflexion qui vient, et c'est comme s'il nous disait « Vous connaissez pas chez moi, venez chez moi ». Et déjà, cinématographiquement, d'habitude, très vite, vous voyez comment ça va se passer. Très vite, on en arrive au cœur, qui est la bavure. Là, il met 40 minutes. Et ces 40 minutes sont formidables, parce qu'il nous présente les gens, parce qu'on voit, c'est un film ensoleillé.
Et ensoleillé.
Oui, mais ensoleillé, parce que c'est un film de plein été.
Avec des zones d'ombre. Hein.
Ah oui, mais justement, il vous montre aussi qu'il y a de la vie. Il vous montre que ce n'est pas qu'un archétype. Et je trouve qu'il utilise formidablement l'outil du cinéma. Tu parlais de la scène du début qui est tournée pendant la Coupe du Monde, donc il avait préparé les gosses pour ça. Il le tourne, il fait une fiction pendant la Coupe du Monde. Bien sûr qu'il n'avait pas les moyens de faire venir des milliers de figurants. Eh bien, on voit un des gamins enveloppé, il doit mesurer 1m22, et il est enveloppé dans un drapeau français qui le couvre quasiment jusqu'aux pieds. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce gosse qui est métis, il est français. Et c'est pour ça que je dis qu'il utilise les moyens du cinéma et il garde une forme d'espoir. Alors qu'avec ce qu'il a vu, vécu, il dit qu'il a pris 80 coups de LBD. Lui, il vous montre ses cicatrices quand vous lui parlez. Eh bien, il dit, même si c'est noir, c'est peut-être pas perdu. Et je trouve que c'est cinématographiquement formidable.
Michel.
Oui, c'est un très bon film. D'abord, il y a l'étude d'une communauté. Le marchand afghan, un lionceau qui est volé aux gitans. Enfin, il y a toute cette coexistence de plusieurs classes sociales et aussi, surtout, des gens d'ailleurs plutôt de conditions très modestes venant de plusieurs pays du monde. Donc, il y a une connaissance effectivement intime. Deuxièmement, il y a une séquence finale, je ne veux pas la décrire, qui est absolument époustouflante du point de vue de la caméra, de la violence de cette séquence. Ce que j'apprécie aussi dans le film, c'est là où il est supérieur à la haine de Kassovitz, c'est que ce n'est pas du tout un film manichéen. Hein. C'est-à-dire, par exemple, les flics, il y a un flic qui est très sympathique, il y a un flic qui est assez odieux. De la même façon, les jeunes des banlieues sont des gens Certains sont des brutes, sont des casseurs, d'autres sont au contraire des gens sincèrement révoltés. Donc il y a une vraie complexité. Ma seule réserve, mais vraiment j'encourage les gens à aller voir ce film, qui est un très bon film, ma seule réserve, c'est que j'attends toujours d'un premier film qu'il me bouleverse complètement esthétiquement. C'est-à-dire qu'il m'apporte un regard que je n'ai pas encore vu. C'est le cas de beaucoup de premiers films. Les poings dans les poches, Citizen Kane, enfin peu importe, il y en a énormément. Et là, j'ai vu un film très bon, dans la tradition du film de banlieue, peut-être le meilleur film de banlieue qu'on ait réalisé en France, mais pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup.
Charlotte.
C'est déjà beaucoup, tout le monde ne peut pas faire Citizen Kane pour un premier film. Il est quand même extrêmement bien maîtrisé, ce premier film, a commencé par la tension que met Ladjili, parce que vous le disiez, Eva, ça démarre comme une chronique, effectivement. On nous présente tous ces quartiers avec toutes les personnes qui vivent dans ces quartiers. Alors, certes, c'est un procédé narratif qu'on a vu 1000 fois au cinéma, à savoir, il y a un nouveau venu qui arrive, tiens, viens, on va faire un tour dans le quartier, je vais te montrer qui est qui tient le quartier et tout ça, ce qui est en fait une façon évidemment de la présenter au spectateur, mais ça marche du feu de Dieu quand c'est fait avec ce talent-là. Et le film, petit à petit, va monter vers une tension et une violence finale pour arriver à un dernier quart d'heure absolument sidérant. Et là où je ne vous rejoins pas, Eva, c'est que moi je trouve cette fin extrêmement violente, extrêmement pessimiste, comme un constat d'échec de toutes les politiques de la ville successives qu'il y a pu y avoir. Et récemment, on a entendu le président Emmanuel Macron qui s'est dit bouleversé par le film. Et alors moi je me demande s'il l'a vraiment vu, parce que quand on sort de ce film, on est saisi, on est choqué, on est sidéré, on est tout ce que vous voulez, mais on n'est pas bouleversé. Il n'y a au contraire aucun pathos, ça se termine sur une tension mais extrêmement forte. Je vais m'arrêter là pour ne pas en dévoiler
plus. Je ne peux pas vraiment argumenter parce que je ne peux pas dévoiler. Quand je dis que tout n'est absolument pas perdu, c'est lié à la fin, mais ce n'est pas lié qu'à la fin. C'est lié à cette sorte de maturité qu'il a acquise, qui fait qu'il montre aussi les flics, qui montre qu'il y a aussi des magouilles dans la cité. C'est cette sorte de maturité qui fait qu'il dit on peut peut-être encore faire quelque chose, mais on est au bord.
Et moi, je ne vous dirai pas si on retrouve ou pas le lionceau. Xavier.
Mais alors, moi, je vous admire. J'ai revu le film aujourd'hui. Visiblement, j'ai droit à une copie qui n'est pas la même que la vôtre, quoi. Je trouve le film
alors, c'est les yeux qui sont pas
d'une lourdeur, d'une pesanteur narrative, les ficelles de scénario. Tu as résumé très bien, Jérôme, quelque chose qui dure des heures et des plombes entre le drôme qui surprend la bavure, le lionceau, les gens du voyage qui sont caricaturés. Michel,
ah oui, ça, les gens du voyage,
c'est effroyablement caricatural depuis le personnage de
Mais
Jeanne
Balibar. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà vécu à Montfermeil pour savoir si c'est caricatural?
Mais la question n'est pas là. Je vois un film, je vois comment les personnages sont écrits. Écoute-moi, Eva, tu vois des films historiques, tu n'étais pas à la Révolution française.
Oui, peut-être. Sauf que là, il vit là-bas et il filme.
Mais je m'en fous, ça, c'est des arguments
temps,
de notes d'intention.
Ce sont et en même temps, il. Non, je ne suis pas d'accord.
Ce sont des arguments.
Attention
de
en même temps, Eva. Attention en même temps.
Il faut le voir pour ce qu'il est. C'est une espèce d'appareil extrêmement manipulateur du récit, du avec des personnages caricaturaux qui ne m'intéressent absolument pas. La manière dont il filme juste avant le dernier on va dire assaut entre guillemets, cette espèce de calme comme ça qui serait revenu sur la cité avec les personnages, avec les regards éperdus, on a vu ça 1000 fois. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'a strictement aucun univers cinématographique. Alors il vit là-bas, tant pis, tant mieux, je m'en fous, mais le film n'est pas bon.
Les Misérables de Ladjili, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le théâtre? Oui, bonsoir.
Je vais critiquer Xavier. J'ai vu ce film cet après-midi, c'est un véritable coup de poing. Je trouve que justement, il n'y a pas de manichéisme. Eva l'a dit, il y a 40 minutes où on voit l'arrivée de ce...
Le flic qui en remet une couche constamment pour être bien sûr que le drame explose.
Laissez-moi parler comme on dit d'habitude ici.
Si maintenant les auditeurs s'en mêlent, alors
on voit
là.
Le trio. Effectivement, on voit pendant 40 minutes le trio se mettre en place. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on voit les flics chez eux après la première journée. Je me demandais comment ça allait... puisqu'il y a cette fameuse bavure, comment ça allait se passer. Ils rentrent chez eux, on voit bien l'environnement dans lequel ils sont. Puis il y a la deuxième journée qui est un peu chaotique, qui est effectivement le chaos. Et alors, je félicite le metteur en scène de ne pas avoir mis le rap traditionnel cliché. Donc c'est surtout pas un film cliché, c'est un film coup de poing, et j'espère qu'il va avoir beaucoup de succès.
Merci monsieur pour votre intervention. Le Mans 66 de James Mangold, 2h30 quand même, hein, mais modèle turbo avec Matt Damon, Christian Bale, John Bernthal et Matt Damon, c'est le pilote texan Carroll Shelby, vainqueur du Mans 59. Reconverti pour des raisons de santé en concepteur de voitures, il fut chargé au milieu des années 60 par la compagnie Ford de mettre au point des bolides capables de damer le pion à l'écurie Ferrari, dont les 24 heures du Mans étaient la chasse gardée. Et Shelby choisit pour piloter son bolide, qui est un Ford GT40, n'est-ce pas Xavier ? L'anglais Ken Miles, qui est joué par Christian Bale, un électron libre, une tête brûlée, allergique à toute autorité. Et le film va montrer la lutte permanente de notre tandem avec la direction de Ford, avec évidemment en apothéose la course du Mans 66. Est-ce que tu as aimé ça, Xavier ?
J'y ai pris un certain plaisir. Pas, ça m'a pas bouleversé, hein, ça m'a pas poussé à apprendre à conduire parce que j'ai pas le permis ni à courir.
Tu conduis pas du tout ?
Moi, puis quoi encore ? Ça va pas. Non, je
serais beaucoup trop dangereux de te ramener toujours en voiture.
Non, mais il y a le métro aussi que j'utilise régulièrement. C'est un film.
C'est
pendant...
un peu long quand même.
C'est un tout petit peu long. Et pendant 2h20, je me suis dit, oh là là, c'est un film d'un patriotisme américain quand même un peu bené, un peu insistant sur le fait qu'aux États-Unis, quand on croit à son rêve, on peut y arriver. Quand on se dépasse, quand on se surpasse, on va arriver à la victoire. Ford n'a rien pour gagner, il finira par triompher. Ce personnage, joué par Christian Bale, pareil, il a tout contre lui, son caractère de chien, et pourtant il finira par se dompter et par triompher. Je me suis dit, avec le fils qu'il regarde avec des grands yeux, je me suis dit, oh là là, la bannière américaine, elle flotte, et on entend bien le bruit. Et puis, c'est une histoire vraie, je ne révélerai évidemment pas la fin, et on voit que Mangold, qui jusque-là très très bien filmé, les scènes, oui, voilà, non mais les scènes de poursuite, moi je connaissais rien à cette histoire, donc je m'en foutais avant, je m'en foutrais après, hein. Mais il y a un revirement du destin qui change complètement la donne et qui apporte, et Mangold l'a très très bien amené jusque là, une espèce d'ironie macabre, de désillusion justement sur le rêve américain que je trouve assez réussi.
Eva.
Alors moi, je suis no sport comme Churchill. D'ailleurs, je m'en fous, je ne fais aucun sport, je déteste ça. Et pas plus
c'est pas
sport.
Bien, Eva.
Non, je sais que c'est pas bien.
L'antenne
donc,
en
je veux dire, je le dis comme ça.
Mais je veux dire, on sera deux comme ça.
J'ai quand même réussi à voir le
mais
film.
Mais qui va conduire alors ?
Très honnêtement, je suis allée le voir parce que c'est mon métier, je ne serais jamais allée. Mais une fois que j'étais là, ça se regarde. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est effectivement quand on veut les Américains, etc. Mais c'est une inversion des codes. C'est David contre Goliath. D'accord ? Sauf que David, là, c'est une multinationale. C'est Ford. Le petit, en fait, c'est Ferrari. Et à un moment donné, c'est quasiment un film anticapitaliste parce qu'on vous montre tous les patrons de Ford comme des gens dans l'ongle, des bœufs qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont aucune finesse. Et Ferrari a l'air d'avoir de la classe. Lui, c'est un esthète. Alors, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas Karl Marx au cinéma.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est
voilà,
pas...
ça ne va pas jusque-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce petit twist. Ça se regarde, c'est un peu long et ça s'oublie.
Charlotte.
Moi, je suis un peu comme Eva, mais je crois qu'il n'y a rien au monde qui m'intéresse moins que les courses automobiles.
Ah, bah, il n'y a rien de plus chiant.
C'est terrible. Et alors, donc, 2h30, c'est quand même un peu pénible. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a une mise en scène extrêmement élégante, extrêmement classieuse, que les courses de voiture, bah, pour une fois, c'est pas un montage survolté comme on a l'habitude de voir dans n'importe quelle course de voiture au cinéma, que là, on les suit vraiment, on est embarqué avec eux. Il arrive même à avoir différentes dispositifs pour mettre sa caméra qui font qu'on ne s'en lasse pas tant que ça. Après, l'histoire d'amitié virile, évidemment, l'artiste avec un caractère de cochon, est-ce qu'il va réussir à maîtriser ses nerfs dans sa bagnole ? Bon, bah, on le sait au bout de 2h30. C'est quand même très très long, mais c'est fait avec classe. Non, mais
c'est vrai que le plus intéressant, c'est les rapports, comme disait Eva, avec les patrons de Ford. C'est oui. Là où on sent qu'il y a vraiment, pour moi, du romanesque. Michel ?
Oui, alors, moi, je reviens au titre original. En anglais, c'est Ford contre Ferrari. Pas du tout Le Mans. Les Français concentrent tout sur la course automobile.
Bon, c'est pour les Français, bah, c'est oui, mais...
Enfin, c'est quand même France, la moitié du film,
ils ont changé
Michel.
Le titre.
Bah, t'as envie d'aller voir Ford contre Ferrari, toi
Non, mais ce qui est intéressant... Mais justement,
si encore il y avait Joseph Gaune, mais il n'y a même pas lui. Donc,
ce qui est intéressant, c'est, indépendamment du fait que les scènes de voiture sont extraordinairement filmées, ça bien sûr, mais ce n'est pas du tout l'essentiel du film. L'essentiel du film, comme dans beaucoup de grands films américains... Enfin, ce n'est pas un grand film, d'ailleurs. C'est un film de talent, mais pas de grand film. Mais c'est de savoir montrer les mécanismes d'une profession, comme Spielberg quand il montre le Washington Post, quand Preminger montre Autopsie d'un meurtre, la justice. C'est-à-dire que les Américains savent admirablement montrer le métier des gens. Et là, c'est une métaphore sur le cinéma. Parce que le personnage de Matt Damon, c'est un metteur en scène, c'est un ingénieur qui a besoin de trouver un grand pilote pour courir dans sa voiture. Et Christian Bale, c'est l'acteur, c'est l'exécutant. Et contre ces gens-là, il y a les cols blancs, il y a les capitalistes qui ne comprennent rien à la création véritablement. C'est exactement comme le metteur en scène à Hollywood doit ruser en permanence avec le système. Donc c'est un film tout à fait passionnant et de grand talent.
Intéressant, oui.
Mais très classique. Mais je pense que quand on est dans la salle, on passe un très bon moment.
Le Mans 66 de James Mangold. Les Éblouis, le premier film de la comédienne Sarah Succo qu'on avait vu dans, qui était très bien dans Les Invisibles. Avec une Camille Cotin absolument méconnaissable, mariée ici à Éric Caravaca, et avec un Jean-Pierre Darroussin qui fait ses débuts dans le rôle qui n'est pas évident d'un prêtre mais pas très catholique, puisqu'il règne sur une paroisse qui a des allures de secte, où les adeptes bêlent comme des moutons. En fait, il s'agit d'une communauté charismatique que Sarah Succo connaît bien, puisqu'elle le dit dans le dossier de presse, elle a vécu pendant 10 ans avec ses parents, elle y a même grandi, elle y a été élevée, sans en dire d'ailleurs forcément dans cette interview tellement de mal, c'est ça qui est assez étrange. Dans le film, Christine et Frédéric Lourmel, c'est-à-dire Camille Cotin, Éric Caravaca entraînent leur progéniture dans une de ces communautés, leur aînée Camille, 12 ans, c'est une petite Céleste Brunkel, que j'ai trouvé absolument formidable pour un rôle qui n'était pas évident, qui rêvait de devenir acrobate dans un cirque et qui va se soumettre à cette vie carcérale jusqu'au jour où, ça on peut le dire, pour sauver ses petits frères, elle va finir par se révolter. L'image, elle est très soignée puisqu'elle est signée Evangelo. La morale, évidemment, est accablante, pas tant d'ailleurs pour la religion, je trouve en tout cas, que pour ses dévoiements et ses excès, puisque les premières victimes, ce sont les enfants. Xavier.
Comment dire ? Non, tu as tout à fait raison. Elles sont exonérées. Elles ne chargent pas.
On n'était pas d'accord sur ce film.
Elles ne chargent pas la communauté religieuse catholique chrétienne dans laquelle cette petite fille est enfermée. Et la bonne idée du scénario, c'est d'avoir pour fil conducteur le corps de cet enfant. D'abord au cirque, comme tu l'as rappelé, sous la douche, quand elle commence effectivement, comme tout adolescent, à découvrir un peu son corps. Voilà, les reliefs, elle va avoir un petit copain, elle va aller effectivement provoquer le dépucelage. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée dans cet arrière-fond qui est cérébral, mystique, d'endoctrinement par le mot, par la parole, par la privation entre guillemets de liberté, parce qu'ils sont pas non plus cloîtrés dans cette communauté. Ils sortent, ils ont une vie normale.
Enfin, ils sont pas cloîtrés, mais c'est quand
ils
même
sont
très
surveillés.
Carcéral, hein.
Donc
très
je trouve surveillé. Que cette idée de ramener du corps dans quelque chose qui pourrait être cérébral et qui pourrait n'être effectivement que le souvenir que Sarah Succo avait, ça c'est une très très bonne idée, parce que cette émancipation, l'émancipation de cette petite fille, elle passe aussi par se révéler elle-même, être elle-même, se dire ce qu'elle a envie d'éprouver comme désir dans la vie. Le problème du film, c'est d'abord en termes de mise en scène, c'est un petit peu flottant, et la fin...
Bah, c'est un premier film, attention, c'est un premier film.
Oui, mais Citizen Kane, comme dirait Michel Simon s'il était là. Et la fin tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Alors, mais la fin, tu ne la racontes pas.
Mais j'ai pas dit un mot.
T'allais le dire.
Non, pas du tout. J'allais dire qu'elle l'explique sans doute très bien. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut effectivement un drame, un catharsis, quelque chose d'extrêmement violent pour provoquer effectivement le dernier stade de la prise de conscience et sortir ce qu'elle a vécu et ce qui a été le sien. Mais là, le problème en termes de scénario et de film, c'est que ça intervient vraiment comme une espèce de « Allez, il nous reste 10 minutes, il faut faire sortir tout le monde, il faut en arriver là où je veux en arriver. » Et il y a un moment, malgré quelques indices glissés sur un des personnages, on a l'impression que le film raconte autre chose et ne le raconte pas bien.
Charlotte.
C'est très prometteur, effectivement, pour un premier film. Et là, pour le coup, c'est un sujet qui me passionne, qui est extrêmement intéressant. Et du coup, le film m'a beaucoup frustrée parce qu'il me semble que dans la narration, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À savoir que le temps de l'embrigadement psychologique dans les dérives sectaires se heurte au temps de narration de cinéma.
Non, c'est parce qu'on un voit temps... très bien l'évolution des non. parents. Des parents
et qui... ben justement, moi, je ne le vois
ça
pas très bien. Ça va un peu vite. Il y a des coups d'accélérateur du scénario ou de scène en scène. Et ça fonctionne d'autant moins bien que nous, en tant que spectateurs, on a une longueur d'avance sur les personnages. C'est-à-dire que on le voit, le mal.
Mais on voit on le père se transformer
qu'il faut,
lentement.
Il ne faut pas y aller. Donc, du coup, j'ai des chevilles psychologiques qui me manquent ou qui ne sont pas assez fluides pour comprendre comment cette famille va se retrouver aux griffes de cette secte, enfin, ou de cette communauté charismatique. Après, les comédiens sont formidables. Et là où Sarah Succo réussit quand même, malgré tout, beaucoup de choses dans le film, c'est que rien n'est manichéen ni caricatural. Qu'effectivement, ils ne sont pas montrés comme des horribles diables terrible, ça, les choses se font un peu en nuance, dans le détail, mais il y a pour moi quelque chose dans le cheminement de la narration qui ne fonctionne pas.
Michel.
J'ai vraiment aimé ce film, D'abord parce que justement, comme elle a, la réalisatrice a vécu ça, on aurait pu avoir un débordement de pathétique.
Oui, un pamphlet.
Un pamphlet, soit un pamphlet, soit tiré sur la corde sensible. Alors, le film reste très distant, finalement, curieusement. Deuxièmement, je trouve ce qui est passionnant, c'est ce personnage de cette petite fille de 12 ans qui est plus lucide.
Je rappelle son nom, Céleste Brunkel.
Voilà, qui est plus lucide que ses parents, mais qui en même temps aime ses parents. Elle a une allégeance envers ses parents. Donc elle est torturée, elle est écartelée entre sa lucidité et en même temps...
Elle renonce même au cirque, voilà. Au début. Hein,
Voilà, ça c'est un très beau dilemme. Et puis, je trouve aussi que ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas dans une cellule djihadiste, c'est pas dans le Temple du Soleil, c'est pas du tout des sectes à l'extérieur. On est dans la France profonde.
Le modèle est américain, hein, faut expliquer.
Le modèle est américain, mais on est dans la France profonde. D'après ce qu'elle dit, 50 ou 60 000 enfants chaque année sont
absolument
victimes de ce genre de secte.
Et toujours à l'ombre d'une église. Hein.
Voilà, et donc je trouve que le film est très équilibré, et très nuancé, et très bien réalisé. C'est vraiment un bon premier film.
Eva ?
Ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est qu'elle prend le point de vue de l'enfant, elle parle de ce point de vue-là, et donc ça lui permet justement d'être nuancé. On comprend aussi pourquoi des gens y vont, parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y a une chaleur, parce qu'il se passe quelque chose. Et ce point de vue de l'enfant, je trouve, c'est ce qui guide le film, c'est vraiment le lien. Et pour moi, c'est une enfant qui découvre ses parents tomber en enfance. C'est-à-dire les parents qui représentent l'autorité, tout d'un coup, sont sous l'autorité d'autres gens auxquels ils se soumettent, alors qu'elle est dans un processus d'émancipation. Et ce point de vue de l'enfant fait justement une mise en scène très intelligente, moi je trouve, parce qu'elle est par bribes. Elle saisit des morceaux d'informations. Donc on n'a pas tout. Et l'évolution, on la voit par exemple aux vêtements, les jupes qui se rallongent en plein hiver.
Et aux cheveux de Camille.
Ils portent des sandales et aux cheveux.
Donc
il y a tout ça. Et il y a une scène formidable, qui est une scène, je crois, d'un anniversaire, où on voit tout d'un coup les parents, ils perdent toute pudeur.
Ils dansent.
Ils ont pété un câble, quoi. Et c'est là où on comprend, mais en douceur. Et je trouve qu'elle est meilleure dans les demi-teintes. Et effectivement, je suis d'accord avec Xavier, c'est comme si elle ne savait pas finir et elle devait accélérer. Mais c'est un défaut mineur par rapport vraiment à un bon premier film et qui le traite vraiment intelligemment.
Et je trouve très justement. Les très éblouis justement. De Sarah Sukou, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Rapidement, à Cannes, en compétition, il y avait pas simplement Les Misérables, il y avait aussi Little Joe, le cinquième film de l'Autrichienne Jessica Ostner, un film à la frontière du fantastique, de la série B, de la psychose, avec Ben Whishaw, Kerry Fox, et puisqu'elle a été quand même lauréate du prix d'interprétation féminine à Cannes, Emily Bechman. Elle est ici Alice, une phytogéticienne, je ne me suis pas trompé, qui a développé une nouvelle espèce de fleur, rouge vif, dont les effets thérapeutiques sont hors du commun. La fleur a la vertu de rendre heureux qui la possède et qui sait surtout, comme Xavier, lui parler, c'est-à-dire avoir une conversation avec elle. Alice la baptise Little Joe, qui est le prénom de son fils adolescent, à qui elle offre cette fleur, dont les effets sont secondaires. Alors, sur le papier, je trouve que c'est très malaisant. À l'écran, j'ai trouvé ça terriblement conceptuel, mais peut-être que vous avez cédé au parfum de cette fleur, Michel.
Moi, j'aime ce regard clinique, j'aime cette esthétique très très prononcée. Effectivement, ce film un peu de science-fiction. Il faut dire que Emily Beecham, je l'ai trouvé formidable. Elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, entièrement mérité. Et je trouve que ce film tranche un peu sur, si j'ose dire, les tranches de vie. On est tellement dans le cinéma documentaire, pseudo-documentaire, réconstitution, etc. Pour une fois que quelqu'un a une entreprise esthétique différente...
Mais ça reste quand même, t'es d'accord, très conceptuel.
C'est très conceptuel.
Ça manque un peu d'incarnation, je trouve.
Oui, mais ça m'a pas ennuyé. Bon. C'est très conceptuel, concernant d'autres films dont on n'a pas encore parlé, qui me paraissent conceptuels.
On aura peut-être pas le temps d'évoquer,
très ennuyé,
je pense, Eva.
Oui, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que d'habitude, la science-fiction, quand on vous parle de l'avenir, c'est toujours des choses terribles. Elle, c'est une toute petite chose plutôt charmante. Elle parle d'une femme qui a trafiqué un peu une plante qui va vous rendre heureux. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle arrive à créer des univers avec peu de choses, avec un laboratoire, avec une plante, et une sorte de petit pompon rouge, et avec une sorte d'humour, parce que la génie phytoge quelque chose, la scientifique, on va dire, elle a une sorte de coupe au bol rousse, qu'elle ressemble à ses plantes, donc il y a une sorte de second
degré. La fleur a les poils longs. Hein.
Oui, mais tu peux interpréter comme tu veux. La plante, peut-être qu'elle s'émancipe, peut-être qu'à un moment, il faut laisser partir sa plante, comme on laisse partir son fils. Donc il y a plein de pistes comme ça, rien n'est sûr, et tant mieux. Oui, je suis d'accord avec Michel, de temps en temps, on voit autre chose. chose.
Xavier.
Bah, c'est un laborieux croisement entre un mauvais épisode de Black Mirror et une publicité cosmétique, traversé par un personnage qui n'a pas une coupe de champignons mais de Playmobil, qui regarde ses pieds, qui ne dit pas un mot, puisqu'évidemment elle est austère, son appartement est austère, le laboratoire est austère, ses costumes sont austères, tout est austère, on a bien compris. C'est un film qui passe son temps à nous crier, regardez comme je suis insolite et bizarre, oui, bah, regarde, regarde toi si tu veux. Et moi, en voyant le film, je pensais à la toute dernière chanson de la comédie musicale, La petite boutique des horreurs, qui disait laissez crever vos plantes. Et ben, yes, je suis entièrement d'accord. Ne partez pas si vous avez le malheur d'aller voir le film avant le dernier plan. Moi, j'ai pensé que vous avez diffusé un truc dans la salle tellement le plan est ridicule.
Ouais. Charlotte, quelques mots.
Il y a une contradiction constante parce qu'effectivement, une plante qui émet des hormones de bonheur, on aurait envie de chaleur, un peu de sensualité, de joie, de fête.
Dans la vraie vie,
voilà. Et là, c'est tout l'inverse. Le film, au-delà du glacial.
Je n'ose pas dire que c'est autrichien parce qu'après je vais recevoir.
Bah oui, mais le film
courrier,
est
mais
totalement.
Il y a un peu de ça quand même.
Il est totalement dévitalisé en fait. Et même si au début on peut se laisser avoir par un certain charme d'étrangeté, c'est vénéneux, un peu anxiogène. Bah alors très vite, il y a deux choses quoi. Un, c'est l'ennui abyssal et on peut même pas dormir parce qu'il y a une musique dissonante, mais ça, atrocissime, vrai, qui est horriblement crispante, qui vous sort de votre torpeur avec des cris aigus, c'est horrible.
Michel et Eva sont à
parce que moi j'ai absolument pas dormi, je l'ai vu deux fois.
Little Joe.
Je dois être malade.
Mais achète-toi une vie, Eva. Tu peux pas aller voir deux fois Little Joe. Enfin,
mais je l'ai vu à Cannes et je l'ai revu quand il est sorti, par honnêteté.
Donc maintenant, ça va être des questions un peu comme pour un quiz. Les enfants d'Isadora de Damien Manivelle, parce qu'on n'a pas le temps, avec Agathe Monitzer, Manon Carpentier, etc. Sur donc la danseuse Isadora Duncan, dont les enfants, vous savez, sont morts noyés. Je rappelle quand même, enfin je précise plutôt, que Damien Manivelle est danseur lui-même. Oui ou non, Charlotte?
Si vous aimez la recherche du mouvement juste et l'émotion de la respiration de cette grande danseuse Elsa Voliatson.
Oui, parce que c'est la recréation d'un ballet.
Voilà, on peut y aller, mais c'est vraiment pour les initiés.
Et Xavier?
Je suis entièrement d'accord avec Charlotte, mais néanmoins, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir.
Oui. Michel.
Ah, le oui des dieux.
J'ai trouvé le projet extrêmement intelligent, mais le film extrêmement laborieux. C'est-à-dire, il est d'une, finalement, c'est du cinéma conceptuel. Alors là, beaucoup plus que Little Joe.
Ça ne dure qu'une heure 25, hein.
Peut-être, mais au moins,
non, mais plus, sûrement,
Little Joe, au moins des qualités plastiques, etc. Là, j'ai vu quelque chose d'assez, à part la dernière réincarnation de la mère, qui est assez émouvante. Le reste du film, je me suis vraiment beaucoup ennuyé.
Eva.
Le début est vraiment aride. Et ça monte en émotion avec le temps.
Oui, clairement.
Il y a une chorégraphe qui fait travailler une danseuse trisomique. Et après, il y a une spectatrice qui sort de l'aptal et nous voyons comment l'émotion se transmet à la spectatrice. Donc le début, on se dit, ça va être hard. Et après, on se dit, il y a quelque chose qui se passe là. On n'est pas dans du cinéma facile, mais on n'est pas dans du cinéma négligeable, loin de là.
J'aime bien, Eva, ta manière quand même de sauver, tu t'arranges pour sauver les films, ça c'est bien, bien.
Je me découvre c'est une bien. Montée avec le temps qui m'étonne moi-même.
Tu vas apporter de la bienveillance dans cette émission. Voilà. Les enfants d'Isadora de Damien Manivelle, et j'avais également inscrit Terminal Sud de Rabat, Hammer Zaimesh avec Ramzi Bedia, Amel Brahim Djelloul, qui est la trajectoire d'un médecin hospitalier, alors dans un pays qui n'est, bon évidemment qui est un pays méditerranéen, mais qui n'est pas non plus nommé, qui n'est pas désigné. Ce Terminal Sud, est-ce que vous le conseillez, Eva?
J'ai du mal à dire en deux mots oui non. Il y a quelque chose de vraiment.
Le problème, c'est que si vous n'étiez pas si long au début sur les premiers films.
Mais oui, voilà. Mais il faudrait qu'on discute. Et ce qu'il y a, c'est que
là aussi. On n'a plus le temps de discuter.
Non, je sais. C'est une sorte de morceau d'absurde qui montre ce que peut être un endroit où la violence peut venir de partout. Mais c'est censé être dans l'Algérie des années de plomb. Mais au fond, il veut dire que ça peut être partout. Et c'est là-dessus où je ne le suis pas. Cette sorte de volonté de généralisation.
Michel.
Non, je ne le recommande pas parce que effectivement, à force d'abstraction, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment est-ce que c'est l'Algérie, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est la colonisation, est-ce que c'est le nouvel islamisme, on ne sait rien.
On sait que c'est les années 90.
Moi, ce que j'aime dans le film, c'est le personnage, c'est l'acteur, Ramzi Bedia, qui est très très bon, mais Hammer Zaimesh, c'est vrai qu'il a la carte, tous ses films sont accueillis par une certaine presse dans l'enthousiasme, j'ai du mal vraiment à entrer dans ce film.
Charlotte.
C'est vrai que c'est un petit peu hermétique, donc ça nous laisse sur le carreau. Le film est radical, il est poétique, il est à la fois ancré dans une réalité et en même temps très métaphorique, puisque vous le disiez, on ne sait pas exactement ni où ni quand ça se passe. C'est un film qui est assez difficile. Malgré tout, je trouve qu'il y a une description d'un climat d'insécurité ambiant et d'un chaos général d'une société déchirée par la guerre civile qui est assez saisissant.
Xavier.
Eva avait raison, c'est les yeux sans doute, parce que je vois pas en quoi le film est difficile. Son universalité, c'est vraiment sa qualité, justement, de nous dire que ça commence avant que le médecin soit pris dans son dilemme, qui est effectivement la partie principale du scénario. Ça commence par les journalistes qui sont kidnappés, qui sont assassinés, c'est-à-dire qu'on tue le mot. C'est-à-dire que tous les régimes, quand même, que l'on voit actuellement, et toutes les populations qui se soulèvent contre ces régimes-là, ça commence de la même manière. On va tuer le journalisme, on va tuer l'information, on va tuer l'altruisme, on va tuer la solidarité. Et cette universalité, elle dit énormément de choses sur hier, sur aujourd'hui et sur demain. Et ce mélange effectivement des géographies, c'est le Maghreb, c'est Marseille, c'est la France. Je trouve, si on voit des plaques d'immatriculation.
Beaucoup de films sont universels en étant racontant une histoire extrêmement.
Mais l'histoire, elle est racontée, Eva.
Et là, elle est en ex-territorialité. Je dis que c'est un choix particulier.
Ça pourrait même se passer à Montfermeil.
Terminal Sud, c'est
signé. Tu sais que c'est à 20 minutes en transport. Je vais te donner mon trip.
Hammer Zahimesh. Je vous rappelle que comme chaque année, je vous propose de voter pour le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Vous m'envoyez, s'il vous plaît, une carte postale au Masque et la Plume, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e, ou un courriel sur le site de l'émission à la rubrique courrier, tout simplement pour nous dire le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2019, avant le 25 décembre et après. Ben, on fait tout ça en début d'année prochaine. Le conseil de Charlotte.
Une série documentaire, Le temps des nababs de Florence Strauss, c'est 8 fois 52 minutes sur les grands producteurs du cinéma français.
Ça, c'est pour l'émission de Xavier, là, le samedi
soir. Ah, bah oui,
soir,
mais comme j'y suis pas encore, j'en profite là.
Très vite.
Donc, c'est des grands producteurs de l'après-guerre à la fin des années 70. Il y a les romanesques, les tenaces, les audacieux ou les magnifiques. Chacun vu à travers un film, La Grande Bouffe, Tess pour Berry ou L'aile ou la cuisse. Ça regorge d'anecdotes invraisemblables et vraiment savoureuses quand on aime le cinéma.
Xavier, un conseil autre qu'une série.
Chaque été, les rétrospectives consacrées à Ozu sont des succès en salle, mais malheureusement, elles ne vont pas dans toutes les salles de cinéma. Donc, Carlotta a eu l'excellente
idée. Très beau coffret.
Sublime coffret pour Noël. 20 DVD, 20 films de cet immense cinéaste japonais avec des raretés. J'ai été diplômé, mais trois petits points de suspension qu'il a fait en 32, des films inachevés qui montrent la progression. C'est quelqu'un qui s'est autorimaqué en plus lors de sa carrière. Donc, il a travaillé des thèmes, il les a réactualisés. Et ce coffret est juste le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux vrais cinéphiles.
Le conseil de Michel.
Comme on approche des fêtes, il faut que la famille casse ses tirelires et que chacun mette toute sa tirelire pour offrir au papa, à la maman, au fiston, à la petite fille, le coffret d'Intégral Tati chez Tachen. C'est-à-dire 5 volumes, 1136 pages. Avec l'intégralité.
J'ose même pas imaginer le prix, hein.
Intégralité
185 euros.
Oui, il faut casser 4 tirelires.
Je l'ai acheté, puisque moi, on me l'envoie pas. Mais...
Intégralité des scénarios, entretien, des essais originaux, des croquis, des notes, des centaines de photos.
C'est sublime.
C'est extraordinaire.
Et le conseil d'Eva.
Moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est une période formidable parce qu'il y a plein de films formidables, très bien sur l'écran. Que ce soit Baccarat ou Chambre 212, vous allez recevoir plein de lettres. Enfin, il y a plein les films dont nous avons parlé aujourd'hui. Et c'est une période très riche. Donc, vous avez tous les choix selon vos goûts. Et ça, il faut en profiter.
Merci à tous. Ces conseils, vous les retrouvez, même celui d'Eva, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Eva Bétan, Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur et Michel Simon pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Et je les remercie, Bernard Laniel, Philippe Thibault, Étienne Collin, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement, c'est un mardi 3 décembre au Théâtre de l'Alliance Française. Deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de théâtre. Allez, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.